Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Chers amis DDM du dimanche matin, bonjour. Nous sommes, comment dire, heureux. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Ça va beaucoup mieux l'hebdo. Toujours en compagnie de la petite bande, Emma Strack, bonjour. Alors Emma, heureuse.
Bonjour, tellement contente de vous retrouver.
Maître Capello, l'intello, l'historien de l'émission, celui qui ne laisse passer aucune approximation sémantique, toujours adepte de la moindre saillie grammaticale, j'ai nommé Patrice Romden. Bonjour Patrice.
Bonjour Michel, moi allez très bien ce matin.
Et enfin. Celui que nous envient les nostalgiques de Coluche, Pierre Dac et Pierre Desproges réunis, le maître des formules qui ne veulent rien dire, des expressions qui n'appartiennent qu'à lui, la preuve.
Est-ce que finalement les problèmes que vous décriviez, Olivier, tout à l'heure, sont pas le revers de la pièce obligatoire quand on choisit ce type d'outil ?
Ah oui, le revers de la pièce obligatoire. J'ai bien sûr nommé Coach Cricri, alias Christophe Brun. Bonjour.
Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. Je ne fais pas que me tromper, je précise quand même.
Voilà. Non, vous dites parfois des choses intéressantes. Exactement. Chers auditeurs, je vous l'ai dit, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Quelques petits changements, bien sûr, dans cette émission, mais l'essentiel est conservé. Vous informer sur la santé, le bien-être et le tout dans la bonne humeur. Et on commence par le sommaire. Emma.
Eh bien, on a beau en entendre parler tous les jours à la télé, à la radio, entre voisins ou au café du coin, le virus et la crise sanitaire continuent à nous poser question. Tellement l'info abonde et bouge, eh bien aujourd'hui on répond aux questions sur la rentrée notamment, mais pas que.
Patrice.
Eh bien ce matin on parle des petits problèmes de santé du génie absolu. Je ne parle pas de la fissure anale de Coach Cricri, non. Il est à fois peintre, sculpteur, cartographe, ingénieur, penseur, musicien. Vous l'avez identifié, c'est Léonard de Vinci. Ce gars-là avait tellement de talent que forcément ça cache quelque chose. Il souffrait de troubles de l'attention et d'hyperactivité.
Christophe.
Belle version de Eye of the Tiger par Jane Grant que je vous conseille, pour l'œil du tigre qui fait référence dans le film Rocky à un signe fort de motivation. Vous savez ce qui va se passer au fait le 3 avril 2022? Est-ce que vous savez ce qui va se passer?
Pas du tout. Marathon de Paris.
Voilà, oui, alors quelqu'un qui est informé. Exactement, c'est le marathon de Paris. Ce sera donc le moment, 7 mois après la date d'aujourd'hui, après une préparation que vous pouvez faire. Ce serait parfait cette préparation pour vous pendant 7 mois. Je vais vous expliquer que vous aussi vous pourriez être motivé pour faire cette préparation et avoir l'œil du tigre, et ce, qui que vous soyez.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
Alors, pendant tout l'été, ça a été le sujet numéro un de nos conversations entre le vaccin, le pass sanitaire et maintenant la rentrée scolaire qui se profile. On va en reparler. La crise sanitaire continue à faire parler. Alors, on sait que le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Ce que l'on ne savait pas, c'est s'il était responsable de formes plus graves qu'avec les autres souches du virus. Question importante, hein. Ne serait-ce que parce que début août, le variant Delta représentait 98% des cas positifs chez nous. D'après une étude britannique publiée hier par The Lancet Infectious Disease, le Delta multiplie par plus de 2 le risque d'hospitalisation. Et surtout, cette étude a montré que quel que soit le variant en cause, 98,2% des personnes testées positives n'étaient pas ou pas suffisamment vaccinées. 98,2%. Et cet été, on avait eu un autre chiffre, 90% des Covid hospitalisés n'étaient pas vaccinés. Alors, on entend ici ou là que nous vivons dans une dictature. Bah, c'est possible. Mais alors, c'est une belle dictature, celle qui impose aux citoyens de se réveiller tous les matins en se souvenant que dans liberté, égalité, fraternité, il y a fraternité. Et comme la situation, Emma, ne cesse de bouger, pas facile de s'y retrouver, on a donc décidé de faire un point ce matin le plus complet possible pour répondre aux questions qui se posent. D'abord, quelques chiffres très factuels. Aujourd'hui, 74,3% de la population française de plus de 12 ans est vaccinée, hein, deux doses, c'est-à-dire le schéma complet, soit près de 43 millions de Français, et on compte 2259 patients en réanimation ce matin. Alors on va passer aux questions qui se posent. Emma, autour de la rentrée scolaire, à quoi va-t-elle ressembler?
Finalement, un peu à celle de l'an passé, avec des élèves en classe, le masque sur le nez dès le CP, avec lavage régulier des mains et aération très régulière des salles de classe. Pas de masque obligatoire en extérieur quand la distanciation physique est respectée et des récréations organisées par groupe.
Que se passe-t-il dans la classe si un élève est contaminé?
Lui, évidemment, cet élève, il doit s'isoler. Concernant ses petits camarades, ça dépend de l'âge et du statut vaccinal. Pour l'école élémentaire et la sixième parce que les enfants ont généralement moins de 12 ans, la classe ferme et l'enseignement se fait à distance pendant 7 jours. Pour le reste du collège et pour le lycée, les élèves contacts sont identifiés et s'ils sont vaccinés, ils peuvent continuer à suivre les cours en présentiel. Sinon, ils s'isolent et suivent à distance pendant 7 jours.
Faudra-t-il un pass sanitaire pour entrer à l'école ou participer aux activités qui sont liées?
Non, pas de pass sanitaire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants, ni pour les parents, ni à l'école, ni pour les activités organisées à l'extérieur avec des créneaux réservés. Vous savez, par exemple, les cours de piscine ou le rendez-vous à la bibliothèque. En revanche, si on imagine une sortie scolaire au musée, par exemple, où les participants vont être mélangés au public, là oui, il faudra présenter un pass ou un test négatif.
Et les activités physiques et sportives, alors, elles sont autorisées ?
Oui, elles sont autorisées en intérieur et en extérieur. Il y a une petite limite quand même en intérieur, il n'y a pas de sport de contact et la distanciation physique doit être respectée. Ça, c'est selon chaque pratique, évidemment.
Alors, ça, c'était pour le retour en classe. On va voir maintenant les questions qui se posent sur le virus et la vaccination concernant les enfants. On sait que ce variant Delta dont j'ai parlé est largement majoritaire dans les cas actuels d'infection, notamment chez les enfants, justement. Est-ce qu'il les rend aussi plus malades ?
Vous l'avez dit, hein, il est plus contagieux chez tout le monde et donc aussi chez les enfants. Et s'ils font rarement des formes graves, on peut miser sur une simple logique mathématique, c'est-à-dire plus d'infections égale plus de malades. Et puis, il y a aussi des cas de Covid long. Mais encore une fois, les formes graves chez l'enfant, globalement, ce sont des syndromes inflammatoires. Elles sont très, très rares. En revanche, le souci au plan sociétal, c'est celui de la transmission.
Et alors, au sujet du vaccin, si les parents de l'enfant sont séparés, est-ce qu'ils doivent conjointement donner leur accord sur la vaccination ?
Non, une seule autorisation suffit. Et pour les plus de 16 ans, pas besoin d'autorisation parentale.
Est-ce qu'il y a des effets secondaires du vaccin chez les enfants ?
Alors, les études de pharmacovigilance, vous savez, c'est le suivi justement de la vaccination, on notait, et des médicaments en général d'ailleurs, on notait quelques rares cas d'inflammation du muscle cardiaque. Mais d'après les travaux de la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'infection au SARS-CoV-2 peut aussi en générer. Et ils sont alors généralement plus graves, alors que les cas liés à la vaccination ne prêtent pas à conséquence de manière générale.
Alors Emma, pour le moment, la vaccination est ouverte aux 12 ans et plus. Est-ce que les plus jeunes vont devoir être vaccinés bientôt ?
Ça n'est pas d'actualité. Je n'ai pas fait d'imitation, mais c'était les termes exacts de Jean-Michel Blanquer. D'abord, les premières études sur cette tranche d'âge sont attendues à l'automne. Et puis ensuite, il faudra que les experts et les autorités de santé les épluchent avant de décider quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas pour tout de suite.
Alors, on s'intéresse maintenant à la population générale, à la vaccination obligatoire. Quelles professions et secteurs concernent-elles ?
Alors, c'est à partir du 15 septembre déjà. Et cette obligation, elle concerne le secteur de la santé avec tous les métiers que ça représente, mais aussi les bénévoles qui exercent dans les mêmes locaux et les professionnels du transport sanitaire, les sapeurs-pompiers, les professionnels du médico-social, les étudiants en santé et peut-être bientôt les policiers, à en croire Gérald Darmanin.
Et donc au 15 septembre, le schéma doit être complet.
Oui, normalement oui, mais une tolérance jusqu'au 15 octobre est prévue pour ceux qui ont déjà reçu la première injection au 15 septembre.
Alors on parle aussi d'une campagne de rappel. Pour quand ? Pour qui ?
Alors oui, ce serait la troisième dose. Hein. Alors elle a été imaginée pour les 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes avec comorbidité au risque de formes graves. Elle aurait lieu au moins 6 mois après les deux premières doses. Ça, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. C'est prévu à partir de mi-septembre, notamment dans les EHPAD. Et pour les autres, a priori, ce sera en même temps que la campagne de vaccination contre la grippe.
Enfin, les femmes enceintes doivent-elles se faire vacciner ?
C'est recommandé pour toutes. Oui, elles étaient même prioritaires à l'époque, dès le deuxième semestre de grossesse, notamment celles qui présente des risques. Pour le reste, les études actuelles, il faut savoir, ne mettent pas en évidence de risques particuliers à la vaccination. Donc oui, recommandé.
Je crois que vous avez été complète. Merci beaucoup.
Bien travaillé pour la rentrée.
Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, l'étude que je vous citais, c'était de Lancet Infectious Disease,
yeah,
dont je l'avais tirée. Et alors, figurez-vous que cet été, j'ai rencontré une auditrice de notre émission qui m'a dit: le moment où je rigole le plus dans votre émission, c'est quand vous parlez anglais. Ouais. Donc je salue cette auditrice et je dis The Lancet Infectious Disease.
Est-ce que vous allez vous adresser à Emma là?
Non. Bah, vous, puisque vous prenez la parole.
Oui, mais je vous demande de le faire en anglais.
Emma, something new?
C'est un bon début. C'est un bon début.
Do you have tour. Something very short to say?
Yes, let me see. J'y vais là, je vous fais un petit mot. Bah, je vais pas vous le faire en. Je vais pas du tout vous le faire en anglais. Là,
non,
ça
parce
va
que
être...
vous savez parler anglais.
Ça va être pénible pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot vagin?
Oui, ça veut pas dire un bol.
Non.
C'est pas une histoire.
Non. Ouais, on a... Faites gaffe, Patrick. Non, on est hashtag MeToo là.
L'origine. Bol, c'est pas un rapport au
vaginus.
Ah, pas loin. Ça vient du latin vagina. Donc vous étiez. Voilà. Et ça renvoie à la gaine, au fourreau où était enfermée l'épée. L'étui et l'épée. Bon, vous avez compris la métaphore. C'est toujours hallucinant quand même de découvrir combien même le corps le plus intime de la femme est notamment nommé et désigné par rapport à...
Les mecs qui se disaient « remets ton épée dans le vagin ». Voilà. C'était une expression médiévale.
Non, moi, pour finir, j'ai un mot. C'est pas un patient, c'est quelqu'un qui accompagne sa grand-mère chez le docteur et dit « Docteur, on pourrait pas passer mémé au scanner ?» Le docteur fait « Mais pourquoi ?» Je sais pas, pour voir.
Et bien, puisque vous l'avez suggéré, vous avez dit que c'était pour finir, c'est pour finir, mais seulement pour la coupure. Pub. Et on se retrouve dans quelques instants avec Maître Capello qui va nous parler de Léonard de Vinci.
Michel Simès sur RTL.
Ça va beaucoup mieux. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde.
C'est moi que je suis la Joconde, c'est vrai, je suis pas trop immonde. Chantait Barbara, rendant ainsi hommage à Léonard de Vinci, dont la Joconde est sans doute la plus illustre des créations, et Dieu sait s'il en a fait imaginer des choses, le génie toscan. Il y avait l'artiste, mais aussi le philosophe, le scientifique, l'architecte, l'inventeur, à tel point qu'on se demande s'il n'était pas un peu hyperactif, notre ami, tellement il faisait de choses. Vous savez ce qu'on dit, hein, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Ah. Voilà, ça c'est fait.
Ouais, c'est pas mal.
Ah non, mais on part. Non, mais pour la première.
Gros niveau là.
Ah oui, pour la première, j'ai décidé de faire fort quand même.
Alors, sur l'hyperactivité, pour nombre de spécialistes de psychiatrie, la question est réglée. Léonard de Vinci souffrait de TDAH, autrement dit d'un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Alors, Vinci fourmillait d'idées, son imagination ignorait les limites, mais il avait un problème. Il avait du mal à finaliser les projets qu'il mettait en route.
Ce qu'on appelle le revers de la médaille obligatoire, cher à Coach Cricri.
Voilà. D'un côté, une extraordinaire créativité, puis de l'autre, des difficultés à traduire tout ça en résultats concrets. Vinci ne tenait pas toujours ses engagements. Par exemple, en janvier 1478, la chapelle Saint-Bernard du Palazzo lui commande une huile sur bois. Il reçoit même une avance de 25 florins pour cette œuvre, une œuvre qui ne verra jamais le jour. Certains de ses contemporains témoignent de son incapacité à s'organiser. Il n'avait pas fini un boulot qu'il en commençait un autre et ça l'a pris dès l'enfance.
Et c'est cette agitation permanente du corps et de l'esprit qui fait penser que Leonardo da Vinci souffrait sans doute d'un TDAH.
Oui, et il y a quand même d'autres indices. D'abord, Léonard de Vinci était gaucher. Ensuite, il était dyslexique, c'est en tout cas la conviction de ceux qui ont observé son écriture ou, soit dit en passant, on croisait pas mal de fautes d'orthographe. Et enfin, à 65 ans, il a fait un AVC de l'hémisphère gauche du cerveau qui n'a pas altéré ses capacités linguistiques, alors que normalement, c'est l'hémisphère gauche qui les prend en charge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a chez Léonard de Vinci une inversion de dominance de l'hémisphère droit pour la fonction du langage. Alors maintenant, écoutez bien. Si vous additionnez le fait d'être gaucher, la dyslexie et la dominance hémisphérique atypique dont je viens de parler, vous avez trois paramètres qu'on retrouve fréquemment chez les enfants qui souffrent de TDAH.
Donc on a bien compris que Léonard de Vinci n'était pas câblé comme nous. C'est aussi peut-être pour ça qu'il a réalisé des chefs-d'œuvre, même si, vous l'aviez dit, il ne menait pas ses projets à terme.
Ouais, je vais vous donner un exemple. Écoutez ça. que vous entendez là, c'est une viola organista. Ça se présente comme un piano à queue, mais quand vous tapez sur les touches noires et blanches, vous obtenez ce son, un son qui ressemble à celui d'un violon ou d'un violoncelle. À l'intérieur de l'instrument, il n'y a pas de marteau comme dans un piano, mais des roues qui font vibrer des cordes. Et cet instrument de musique que vous entendez, hein, eh bien, Léonard de Vinci l'a dessiné à la fin du 15e siècle. Mais il ne l'a jamais fabriqué, il a juste laissé des croquis sur lesquels un pianiste polonais s'est appuyé 5 siècles plus tard pour fabriquer l'instrument. Et à l'arrivée, c'est ça qui est fou, c'est que ça fonctionne. Le gars, il fait ça sur le papier, vous appliquez ce qui est sur le papier, à l'arrivée, ça marche. Léonard de Vinci n'avait fait qu'imaginer le son que pouvait faire son invention. Et ce son, aujourd'hui, il est là, concret.
Oh, c'est beau, hein. On se croirait dans une église.
Ouais.
Merci beaucoup, Patrice Romden. Jeanne Siofachin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Emma s'inquiète beaucoup pour ses enfants. Elle voudrait savoir quels conseils on peut donner aux parents pour mettre leur progéniture dans les meilleures dispositions possibles pour en faire des génies sans leur mettre la pression.
Ah bah, voilà une question archi simple. Très facile. Mais moi, je crois que déjà le mot rentrée, c'est plus sympa de l'imaginer comme une entrée. C'est-à-dire une entrée dans un nouveau moment, une nouvelle étape. Et ça peut être beaucoup plus sympa de se dire qu'on ne rentre pas dans quelque chose, mais on découvre quelque chose de nouveau. Et d'accentuer beaucoup avec les enfants cette notion de nouveauté, de quelque chose qui va se passer, qui de toute façon est différent, même si on est dans la même école, c'est une nouvelle classe, ce sont de nouveaux enseignants, c'est de nouvelles matières, il va se passer quelque chose. On pourrait presque faire une forme de suspense pour dire, on va entrer dans un moment nouveau, parce que quoi qu'il arrive, ce sera un moment nouveau, et remettre les enfants dans cette espèce de presque de stress positif face à la curiosité de qu'est-ce qui va se passer dans cette année, comme si on partait dans une nouvelle aventure finalement, parce que c'est une aventure.
La découverte de quelque chose de nouveau, moi je me souviens quand je suis rentré en 6e, on passait de l'école primaire à un grand établissement. En école primaire, j'ai été le plus grand.
Et là, vous étiez le plus petit.
Et on était, ouais. Et on était le plus petit. Vous êtes là, Jeanne?
Absolument. Oui, j'ai failli de plus l'être, mais je suis là.
Bon, c'est très gentil. J'ai eu très peur pour vous. Patrice.
Non, mais j'écoutais ce que vous disiez à l'instant. On attend de nos enfants qui se comportent bien, qui nous rapportent de bonnes notes de l'école. Au fond, qu'est-ce qu'un enfant qui réussit?
Déjà, moi, j'adore ce que vous venez de dire, rapporter des bonnes notes. On dirait l'enfant qui va dans la forêt, le petit chaperon rouge avec son panier, il doit rapporter quelque chose. Non, il rapporte rien à personne. L'enfant, il va à la conquête de lui-même. Et un enfant qui réussit, c'est un enfant qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait, à accomplir ce qu'il accomplit. C'est un enfant qui, pas forcément va jusqu'au bout des choses, vous parliez de Léonard de Vinci, mais on voit bien que c'est aussi une question d'accomplissement, de fonctionner, d'avoir cette espèce de plaisir. Alors, si j'emploie des grands mots de psychologie, il y a cette notion de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque, c'est-à-dire la motivation extrinsèque, c'est précisément le truc de ramener des bonnes notes, avoir des bonnes notes, avoir cette forme de reconnaissance de l'école, des parents qui vont dire waouh, super, t'as bien travaillé. Et la motivation intrinsèque, c'est vraiment lié, et c'est pour tout le monde pareil, au plaisir de faire les choses, à l'envie perso, à cette sensation, parce que la réussite, c'est une sensation intérieure. C'est jamais, on peut être nourri un peu de ce que vont dire les autres, mais c'est la sensation intérieure de se dire waouh, ça je l'ai fait, je l'ai bien fait, je m'en suis débrouillé, j'y suis arrivé, je suis content de moi. Et c'est vraiment ça qui est important d'entretenir chez un enfant. C'est la sensation que ce qu'il fait, ça lui procure du plaisir, ça lui procure de la satisfaction, ça lui donne un sentiment de compétence, ça lui permet d'avoir confiance en lui. Et c'est pas forcément d'aller au bout des trucs. La créativité, c'est archi important aussi.
Maman Emma.
Ouais, c'est vrai que, alors on sait qu'ils ont envie de nous faire plaisir souvent les enfants, et parfois on peut leur mettre un peu la pression en tant que parents sans le vouloir. J'ai aussi l'impression qu'on entend de plus en plus parler justement d'hyperactivité, de précocité aussi, parfois complètement autodiagnostiquée par les parents. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous en voyez plus ou est-ce qu'on identifie mieux aujourd'hui?
Oui, c'est la deuxième proposition est la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on identifie mieux beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a encore pas si longtemps, un gamin qui écrivait mal, etc., on l'engueulait, on lui faisait faire des lignes, et encore des lignes, et encore des lignes. Alors que maintenant, on connaît mieux comment fonctionne le cerveau. Donc, on sait mieux repérer la dyslexie, la dyspraxie, qui est cette difficulté à coordonner le geste pour pouvoir écrire à peu près droit, avoir des lettres à peu près régulières, ne pas rendre que des espèces de torchons absolument immondes qui vont être le lit de punition, qui vont aller grandissantes au fur et à mesure de l'année. C'est vrai qu'avant, on disait d'un enfant, il n'arrête pas de bouger, c'est une toupie. Et maintenant, on va se poser la question quelquefois de l'hyperactivité, qui est un trouble authentique, mais en même temps qui est plein de ressources, comme vous l'avez bien dit, hein, d'ailleurs, avec Léonard de Vinci. On va mieux identifier aussi ces enfants qui ont un fonctionnement intellectuel avec beaucoup plus de ressources ou de besoins de réalisation que les autres, qui sont ces enfants à haut potentiel, précoce, zèbre, peu importe le nom qu'on leur donne. Ouais. Donc, en fait, on identifie mieux, mais il n'y en a pas plus. Il n'y en a strictement pas plus. Et c'est vrai que les parents, quelquefois, pour répondre à Emma, ce que vous disiez, pour se rassurer, vont auto-déclamer la singularité de leur enfant comme si ça pouvait les préserver de critiques en disant si mon enfant est hyperactif, si mon enfant a haut potentiel, si mon enfant est dyslexique, alors c'est normal.
Oui, alors le dépistage est bon, mais il ne faut pas non plus tomber dans les excès. Je vais dire un mot sur Cogitose. Hein, vous avez créé des centres qui préconisent une prise en charge globale des enfants en difficulté scolaire. Je propose aux éditeurs qui sont concernés d'aller sur votre site Cogitose, C-O-G-I-T-O-Z. Jeanne Ciot-Fachin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Passez un bon dimanche.
Merci beaucoup, bonne journée.
On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3, la partie récréée, bien sûr, avec le jeu.
Ah. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Avec Michel Simès.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Les Stones, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones depuis 1963, est décédé, vous le savez, paisiblement dans un hôpital de Londres ce mardi 24 août. Il faisait partie des plus anciens membres du groupe de rock. Il venait d'avoir 80 ans. Alors, pour vous donner une idée, Mick Jagger a 78 ans. Keith Richards, guitariste, 77 ans. Et en voyant cette info, parce que c'est vrai, quand vous regardez Mick Jagger, vous ne dites pas qu'il a 78 ans. Hein. Je me suis demandé si les musiciens avaient une espérance de vie plus longue que les autres. Et quand on sait que Charlie Watts, à 80 ans, il continuait à battre, à taper sur sa batterie, vous, Christophe, qui êtes un batteur professionnel, vous devez être très impressionné. Hervé Platel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen. Vous avez beaucoup travaillé sur les artistes en général, mais aussi sur les musiciens. Est-ce que finalement, parce que c'est vrai, 80 ans, continuer à aller au concert. Moi, je suis allé à des concerts des Stones récemment. C'est impressionnant. Finalement, le fait d'être musicien augmente vos capacités cérébrales, cognitives?
Alors, ce qui est bien documenté, ce qui est bien connu et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, le cerveau des musiciens, il change avec l'entraînement et la pratique. Un cerveau de musicien, c'est un cerveau qui est très entraîné au niveau moteur, pour la maîtrise de l'instrument, au niveau auditif, mais aussi au niveau de la mémoire. Et ça, c'est ce qu'on a montré dans notre laboratoire, montrer qu'il y avait plein de structures cérébrales liées à la mémoire qui étaient modifiées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, modifiées? C'est-à-dire qu'on a des régions du cerveau qui se trouvent épaissies, avec une densité de neurones plus grande, et puis on a une communication, des fibres de communication entre certaines régions du cerveau qui sont modifiées. On peut dire que, en fait, dans le cerveau d'un musicien, au lieu de départemental pour la communication, ils ont créé des autoroutes de la communication.
Patrice Romden, vous êtes pianiste.
Amateur aussi.
Oui, amateur, mais meilleur que n'est Christophe à la batterie. J'ai eu l'occasion de tester.
Oui, mais je cours moins vite.
Tester les deux. Une question.
Il chante moins bien.
Non, je me demandais si le fait de commencer tôt pouvait aussi influer sur l'espérance nos capacités cérébrales et l'espérance de vie, oui.
Alors ça, c'est une question qui est encore débattue. Ce qui est clair, c'est que les jeunes musiciens, ils bénéficient effectivement donc de modifications au niveau de leur cerveau et de capacités augmentées en termes d'attention, de concentration, de mémoire. Et ça, c'est bien documenté. Alors après, la question sur laquelle on travaille actuellement, c'est de savoir si ces bénéfices, ils sont durables avec l'entraînement tout au long de la vie, ou si éventuellement on arrête donc de faire de la musique, est-ce qu'on en conserve les bénéfices ? Mmh. Il semblerait bien que si. Et puis, il y a des études aujourd'hui, donc qu'on qualifie d'épidémiologiques, c'est-à-dire des études de grandes séries de populations, notamment en Suède et en Finlande, qui montrent que quand on regarde dans la population en général, les gens qui ont pratiqué la musique au cours de leur vie, eh bien, ils peuvent avoir un risque diminué, de démarrer une maladie, notamment neurodégénérative. Et ils ont trouvé dans leur population, notamment, des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire des jumeaux qui viennent du même œuf, qui ont le même bagage génétique, mais un des deux jumeaux a fait de la musique et pas l'autre. Ce sont des jumeaux qui sont qualifiés de divergents. Ouais. Et celui qui a fait de la musique, eh bien, en fait, il a des modifications dans son cerveau que n'a pas l'autre. Ouais. Alors, conclusion de ça, est-ce que ces modifications permettent d'avoir une meilleure résistance aux maladies en vieillissant? C'est possible, c'est une hypothèse qui semble assez forte, mais qu'il faut encore confirmé par des études.
En tout cas, ça donne envie d'envoyer ses enfants faire un peu de musique. Hein,
c'est clair.
Ça fait du bien à tout le monde. Merci beaucoup, Hervé Platel. Je rappelle que vous êtes professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen. Merci. Voilà, un beau morceau des Stones. C'est, on va maintenant vous écouter une nouvelle rubrique.
Ça va beaucoup mieux. La Minute Numérique Santé.
Alors, comme vous le savez, les nouvelles technos ont envahi notre quotidien, notamment notre quotidien dans la gestion de notre santé, des applications en passant par les nouveaux modes de prise en charge des patients à distance, la télémédecine, la télésurveillance, l'intelligence artificielle, jusqu'au prochain espace numérique de santé qui sera mis à la disposition de chacun de nos concitoyens en janvier. Alors, le fait est que ce développement de la techno dans notre santé n'est pas sans question. Aussi, cette saison, on a choisi de répondre à vos interrogations sur ce thème du numérique en santé. On prendra une question chaque dimanche et on commence aujourd'hui avec Amalia qui vient d'accoucher, qui nous demande dans quelles circonstances, quelles conditions on peut lui conseiller d'utiliser la téléconsultation. Christophe, c'est vous qui répondrez à ces questions sur l'espace numérique de santé. Quelques précisions pour Amalia.
Avec plaisir Michel. Tout d'abord Amalia, parlez-en avec votre médecin traitant. Il vous expliquera que toutes les consultations ne nécessitent pas une visite. Il vous dira aussi que la téléconsultation est adaptée pour échanger avec votre médecin, donc pour faire un simple suivi postpartum après votre accouchement ou pour renouveler une ordonnance ou encore pour consulter à distance depuis votre lieu de vacances. La téléconsultation vous permet d'avoir un rendez-vous facilement, tout ça est efficace et confidentiel, sans temps de déplacement ni pour vous Amalia ni pour la sage-femme qui vous suit, et ce sera encore plus utile si vous vous trouviez dans un désert médical. Bien sûr, pour certains examens, votre médecin vous dira aussi qu'il faudra toujours aller le voir, mais quand c'est possible, la téléconsultation c'est facile, c'est sûr, le secret médical est pleinement respecté et l'État est garant de la protection de vos données de santé, et ça c'est très important. Vous retrouverez des informations sur le site à la e-santé tout attaché en minuscule.fr qui répond à cette question évidemment et aussi à beaucoup d'autres et à certaines que nous reprendrons Michel le dimanche matin.
La i c'est pas le i c'est le hein, c'est bien le, évidemment voilà. C'est British, exactement. C'est oh, English yeah.
Oui à la e-santé je répète tout attaché en minuscule
sure. Ok voilà. Alors ouais c'est important hein, parce que cet espace numérique de santé va bouleverser complètement notre prise en charge et on va essayer de vous éclairer là-dessus. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good, j'ai envie de dire l'excellent magazine Dr Good, mais aussi avec son pendant nutrition alimentation, le magazine C'est Bon, et vous trouverez dans le numéro qui est en kiosque actuellement avec en couverture le raisin, un petit grain bon pour le cœur, tout un dossier sur l'estomac, les bons aliments pour les protéger, pour le protéger, pour éviter les reflux, vous savez, les remontées acides. Il y a, l'alimentation joue beaucoup là-dessus.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Et les amis,
le jeu.
On peut pas jouer. On va jouer aujourd'hui avec Sylvie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une fidèle auditrice d'RTL. Vous habitez où, Sylvie?
En Dordogne.
Oh, quelle ah, où belle ça en région. Dordogne. Mmh. Où ça en Dordogne, demande Patrice.
Le 24, donc.
Hein, à Tourcoirac.
Où ça ?
À Tourtoirac.
Tourtoirac. De toute façon, tout ce qui finit par Ac est en Dordogne ou dans le Périgord. Et vous, c'est tout, Patrice ? Vous voulez son numéro de portable aussi ? Non, c'est
non,
bon.
Non.
Ou un petit souvenir de colo, généralement, vous en profitez.
Alors, Sylvie, vous allez jouer.
De colo,
pour...
de vacances. Hein. On est dans une mission médicale, faut faire attention à ce qu'on dit.
Vous allez jouer, Sylvie.
On a tous des souvenirs de colo, à un moment donné, dans notre vie.
Je vais essayer de reprendre la main, Sylvie, dans cette émission. Un casque Listen. Alors, c'est de l'anglais aussi. Listen, c'est comme la écoutez en anglais. Sans fil de focale. C'est un casque qui va vous permettre de faire du sport en musique ou de réécouter les podcasts. Pourtant, c'est de l'anglais aussi. Ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Alors, écoutez bien, Sylvie, je vous rappelle le principe du jeu. On va vous raconter une petite histoire. Il y a trois versions. Il y en a une seule qui est juste.
D'accord.
Sergio Canavero est un neurochirurgien italien de 56 ans qui avait plutôt bonne réputation jusqu'au jour où on a commencé à le surnommer Docteur Frankenstein. Pourquoi ce surnom ? Tout simplement parce qu'il a un projet complètement dingue dont la presse du monde entier s'est fait l'écho. Mais quel est ce projet ? Version Emma.
Eh bien, notre neurochirurgien croit en la résurrection et en l'amour éternel. Il a imaginé une machine qui ressemble à un gros congélateur rempli d'eau dans lequel il a l'intention de plonger le corps de son épouse quand elle sera décédée. Alors ensuite, il va mettre le congélateur en marche, le corps sera saisi dans la glace et il pense que les progrès de la médecine permettront à moyen terme de ressusciter son épouse. Bon, pour ça, il faudra attendre, évidemment, il faudra faire fondre la glace et puis remettre en marche le corps parfaitement conservé.
Version Patrice.
Notre neurochirurgien a une idée bien plus folle que ça. Il a l'intention de greffer un corps humain sur une tête. Son idée, c'est de vous proposer un corps de rechange, celui par exemple d'une personne en état de mort cérébrale, si vos organes ne fonctionnent plus, mais que vous avez encore toute votre tête. Bon, alors ça ne serait pas pour tout le monde, hein. Ça coûtera entre 10 et 100 millions de dollars pour une greffe de la tête ou du corps, l'essentiel étant que les deux pris séparément soient en état de marche.
Version cri-cri.
Notre neurochirurgien en fait était complètement fou. Il est devenu fou. Il prétend qu'on peut recycler le cerveau d'une personne décédée en le greffant sur des animaux féroces, de manière à augmenter leur capacité intellectuelle. Prenons l'exemple du pitbull. Son cerveau pèse 70 grammes. Si vous lui greffez un cerveau humain qui, lui, pèse 1,4 kg, vous pouvez en faire un chroniqueur pour Michel Simès. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec nous trois autour de la table aujourd'hui.
Très bien. Sylvie, pour vous, quelle est la bonne version ?
Pour moi, ce serait Patrice.
Bravo.
Première auditrice, première victoire.
Quelle efficacité.
Patrice, des explications.
Alors, Sergio Canavero veut effectivement greffer des têtes, mais nombre de ses confrères pensent qu'il se paie la nôtre avec un tel projet, hein, parce qu'il y a deux, trois détails à régler. Le plus épineux, c'est la moelle épinière. Il faudrait être capable de la réparer. Alors après, il y a aussi le risque de rejet de la greffe. Le donneur va léguer une grande partie de moelle osseuse et le corps fera tout pour rejeter la tête, sans parler des milliers de nerfs à reconnecter, etc. etc.
Le plus épineux, c'est la moelle épinière, comme quoi Maître Capello est bien de retour. Sylvie, bravo.
Noté, bien,
vous avez gagné un casque Listen sans fil de focale pour
merci
faire
beaucoup.
Du sport en musique. On vous envoie ça. Merci de votre fidélité.
Merci.
Sylvie, à bientôt. On se retrouve dans quelques instants et on va se préparer pour un marathon.
Ça va beaucoup mieux sur RTL. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Christophe, dans 7 mois, ce sera le Marathon de Paris 2022, le 3 avril précisément. Et vous pensez vraiment que tout le monde pourrait suivre une préparation pendant 7 mois et que tout le monde pourrait faire une telle distance ?
Alors, une petite précision quand même. Il y aura une édition du Marathon de Paris 2021 qui aura lieu dans un mois, le 17 octobre, d'un mois et demi. Mais pour celui-là, si vous démarrez la prépa juste maintenant, vous êtes mal barré. Non, là aujourd'hui,
ah bon ?
Là aujourd'hui, on va parler du Marathon de Paris 2022, ce fameux 3 avril 2022. Donc. Alors oui, pour peu que vous n'ayez aucun problème de santé notoire, si vous vous préparez, il n'y a aucune espèce de raison que vous ne puissiez pas réaliser ce qui, aujourd'hui, vous paraît être un exploit qui hante vos nuits, évidemment, Michel. Et justement, des mots pas perdus dans la nuit, pour le coup, j'en ai lu dans un article très intéressant sur le site dans la tête d'un coureur.fr, tout en minuscule, tout attaché. Je vous conseille d'ailleurs ce site pour la préparation à proprement parler. Allez-y, regardez, vous trouverez tout ce que vous cherchez pour bien vous préparer. Et puis cet article, c'est l'objet de notre chronique du jour, parle des idées reçues qui existent et qui font qu'on finit toujours par se dire « Ok, le marathon, c'est pas pour moi ».
Et la première idée reçue, c'est « Pour les vieux ».
on pense que le marathon c'est pour les vieux. Oui, parce qu'on se dit que quand on est jeune, on a autre chose à faire que de s'emmerder à galoper watts kilomètres par semaine pour réussir à traverser Paris et sa banlieue en courant. Et puis on a parlé de la maturité cardiaque aussi, qui veut qu'on est mieux adapté pour courir plus long quand on est plutôt plus vieux. Que nenni, dites-vous qu'il n'y a pas d'âge idéal pour faire un marathon. Le bon, c'est celui que vous avez quand vous décidez de vous lancer ce défi. Que vous soyez vieux comme Michel ou jeune comme Emma, s'il y a une envie, il y a un chemin, bien sûr.
Vous êtes en train de faire votre dernière chronique.
Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le gabarit idéal d'un marathonien, vous leur dites quoi?
Bonne question, Patrice. C'est une question pour un ami, j'imagine.
Un ami, t'en fais pas, c'est toujours fait pour ça.
Alors voilà, rassurez votre ami second rôle, Patrice. Que l'on soit petit, grand, mince, costaud, en suivant une préparation adaptée à nos capacités.
Non,
j'ai dit costaud. Nous sommes tous capables de courir un marathon. Je dis bien une préparation adaptée. Se préparer pour faire 5h30 ou 6h, ce n'est pas la même chose que de se préparer pour faire moins de 3h ou moins de 3h30.
Alors, Christophe, la grande question quand même, c'est est-ce que je suis un vrai marathonien si je le fais en 4, en 5, voire en 6h?
Moi,
j'ai fait mon
Michel.
Premier marathon en 5h30.
Voilà, mais l'idée pour chacun de faire sa course, chacun à son niveau. On est marathonien quand on fait la distance, les 42 km 195 pour être tout à fait précis, et pas uniquement parce qu'on est capable de la faire en dessous des minima olympiques. Et vous allez vous surprendre, vous allez développer des qualités qui vous étaient jusqu'ici inconnues. Votre autodiscipline et donc vos progrès vont forger chez vous un mental de champion qui vous servira aussi dans les autres sphères de votre vie personnelle, professionnelle. L'œil du tigre qu'on disait tout à l'heure.
Merci coach Cricri, merci à tous et on ne révélera pas qu'Emma se prépare à faire le semi-marathon.
Il me coupe la peau les pieds. C'est magnifique.
Voilà, j'allais dire, ça pourrait presque me tenter.
On va suivre sa préparation. Merci à vous chers fidèles auditeurs de nous avoir rejoints pour cette reprise. On sera bien sûr là la semaine prochaine à 9h15 sur RTL et d'ici là, écoutez-moi, on a changé la chanson.
Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
Eh oui, la vie, parfois, c'est si bon. Salut Emma, salut Christophe, salut Patrice.
Salut Michel,
salut à vous retrouver.
Et à dimanche.
RTL, ça va beaucoup mieux.